chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir avec moi dans le studio Ali Badara Cissé, assistant de cabinet du ministère guinéen de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et chargé de communication d'Africa Femmes Performantes Guinée. Merci beaucoup d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Alors, vous êtes de passage ici à Washington. Nous allons parler de l'alphabétisation des femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Pourriez-vous nous dire dans quel cadre vous êtes justement à Washington?
Donc, je suis aux États-Unis d'Amérique, d'abord par rapport au salon de l'AGOA qui s'est tenu à Miami, où notre structure Africa Femmes Performantes était chargée de la logistique, parce que notre présidente, Madame Patricia Esther Seke, elle est membre du conseil d'administration de l'AGOA. Donc, moi, je suis venu avec une double casquette. D'abord, au compte d'Africa Femmes Performantes en tant que chargée de communication, mais aussi et surtout représentant du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de la Guinée. Et pour participer à cette rencontre d'envergure internationale, puisque nous devons préparer aussi le 8e congrès international de la femme noire et de la diaspora, et notre ministère est partenaire, donc il fallait être présent à Miami et puis à Washington pour mieux préparer ce 8e congrès, puisque notre siège est ici, donc il fallait être là avec la présidente pour préparer le 8e congrès.
Alors, votre visite à Miami, notamment pour l'AGOA, qu'est-ce que vous retenez-vous de cette rencontre?
C'était pour promouvoir les talents des femmes. Et donc, parmi 10 pays africains, la Guinée s'est classée deuxième. Donc, il va exporter le textile guinéen qui va être sur le marché américain. Donc, ça permettra aux femmes vraiment d'avoir de l'emploi, mais aussi la qualité dans ce qu'ils font. Parce que, comme on le sait, la femme est au cœur du développement. Donc, il faut vraiment des activités qui puissent les permettre de satisfaire leurs besoins, d'atteindre l'autonomisation.
Dans la presse.
Les Saoudiennes sont autorisées à conduire. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas?
Très bien, oui.
Certaines femmes de l'élite saoudienne avaient bravé cette interdiction et se faisaient arrêter systématiquement. Cette décision est intervenue après celle les ayant autorisées à célébrer la fête nationale dans un stade, une première dans le pays. En novembre dernier, le prince Al-Walid Ben Talal avait déploré le coût économique découlant du fait que les femmes dépendent pour se déplacer de chauffeurs étrangers ou de taxi. Et si un mari veut conduire son épouse, il doit s'absenter du travail, avait-il regretté. Autoriser les femmes à conduire est désormais une demande sociale urgente que la conjoncture économique justifie, soulignait-il, estimant que le recours à des chauffeurs étrangers coûte des milliards de dollars à l'économie saoudienne. Les États-Unis ont réagi positivement à la décision de Riyad et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a eu une réaction similaire en saluant la décision saoudienne. Ali Badara Cissé, une petite réaction rapide. On voit un petit peu ce qui se passe en Arabie Saoudite. L'argument économique est intéressant. Ça fait un petit peu penser à la Seconde Guerre mondiale en France, en Europe notamment, quand on a permis aux femmes de travailler dans les usines pour notamment de construction d'armement. Et ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite, c'est que il y a également des lois qui ont été assouplies au niveau du travail. Donc en fait, ça c'est tout sur le compte du coût économique. Donc, on peut dire que c'est une chance, entre guillemets, pour les femmes, peut-être, non?
Oui, c'est une chance pour les femmes, mais aussi pour le respect du droit et de l'égalité. Moi, je pense qu'on ne pouvait pas interdire à ces femmes de conduire dans leur propre pays, parce que la femme est au cœur de tout développement. Donc, et avec cette loi, ça permet vraiment non seulement d'économiser, mais aussi et surtout de mettre en place ici une égalité de chance. échange entre les hommes et les femmes.
Mais c'est la question qu'on se pose tout le temps quand certains prennent des décisions comme ça. Est-ce que l'argument économique est vraiment valable? Est-ce qu'il est obligé d'utiliser l'argument économique pour faire ces réformes qui sont quasiment impossibles du côté de certains conservateurs en Arabie Saoudite, comme on le sait? En fait, on ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle en fait. Hein,
oui, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, peut-être du fait de s'apesantir sur les conditions économiques, pouvait permettre à certains de ne pas trop riposter.
Ouais.
Et donc, raison pour laquelle, mais moi, je pense que cela n'était pas un argument échappatoire. Et tout ce qu'il fallait, c'est de mettre en place cette loi pour qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes. Donc, cet argument aussi est venu peut-être pour corroborer un peu ces arguments, pour ne pas qu'il y ait beaucoup plus de réactions négatives.
On revient sur l'alphabétisation, n'est-ce pas? L'alphabétisation en Guinée. Vous avez des chiffres à nous présenter en ce qui concerne les femmes notamment, les femmes, les enfants, les hommes, un petit peu tout le monde, parce que ça peut toucher tout le monde.
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui en Guinée, vous avez plus de 52 000 personnes qui ont été alphabétisées. Et cette année, 2017, il y a eu 14 000. Vous savez, l'UNESCO est partenaire à notre ministère en charge du système éducatif guinéen. Donc, il y a cette journée internationale qui est célébrée chaque 8 septembre. Donc, en Guinée, elle a été célébrée et avec l'appui, bien sûr, du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en collaboration avec Conakry, capitale mondiale du livre, parce que notre pays est capitale mondiale du livre.
On le sait,
donc, avec la maison d'édition L'Harmattan, donc, nous avons célébré cette journée internationale à l'université Gama Abdel Nasser de Conakry.
On a eu des chiffres dernièrement assez alarmants, notamment au niveau scolaire, vous en avez sûrement entendu parler. Même les enfants qui vont à l'école ont de gros problèmes à lire une phrase correctement. Est-ce que dans les programmes, autrement dit, il y a aussi des programmes pour soutenir un petit peu, bien que ce soit logiquement le travail de l'école publique, mais bon, pour soutenir aussi des jeunes, des très jeunes qui ont de gros problèmes dans ce domaine-là, non?
Oui, c'est réel. Il y a de l'alphabétisation qui se fait non seulement au niveau des adultes, et c'est un réel problème qui existe. Donc, il y a des personnes, par exemple jeunes, et qui ont besoin d'être alphabétisées. Il y a aussi des personnes âgées qui ne savent ni lire ni écrire.
Oui.
Et donc, il faut leur donner la chance.
Et ça prend du temps, par exemple, pour une personne âgée qui ne sait ni lire ni écrire. Ça prend combien de temps, à peu près?
Oui, généralement, ils sont soumis à des séries de formations pour...
C'est intensif un
voilà,
peu, ouais.
Intensif et deux fois, et ça peut s'étendre sur 3 ans parce que là, il faut les occuper. Il y en a, par exemple, qui sont dans les secteurs d'activité, mais vous savez, si vous ne savez pas compter, lire et écrire,
on revient au business,
voilà,
hein,
ça peut jouer sur
la base.
Voilà, sur la base. Donc, il faut vraiment leur donner la chance et de connaître le béaba.
Parole de femme.
La présidente de Maurice, Amina Gourib Fakim, était en visite à Washington en septembre dernier pour une rencontre avec la fondation Bill Gates consacrée à un programme de soutien destiné aux filles. Abou Shakour Aboud du service Swahili de VOA Afrique lui a tendu le micro.
Il y a un potentiel, un vivier énorme au sein des talents féminins. Et ce talent féminin doit être exploité à sa juste mesure, parce que, comme je dis, je le redis, ça peut être un peu cliché, on ne peut pas gagner un match de foot si on laisse 52% de l'équipe en dehors du jeu. Alors, il faut absolument trouver des moyens pour attirer cette masse de talents dans les différents secteurs. Mais ce qu'il faut faire, il faut regarder comment encadrer la fille africaine. Parce qu'il a été rapporté maintenant qu'à partir de l'âge de 6 ans, elle a déjà subi les conséquences de cette méprise pour lui dire qu'elle ne peut pas faire la science, qu'elle ne peut pas être ingénieure. Et je crois que c'est à partir de ce moment où on arrive à enlever, par exemple, des stéréotypes dans nos livres, à lui donner cet encadrement qu'il faut pour que la fille s'épanouisse, je crois que c'est à partir de là qu'on va créer cette génération de filles africaines qui sera plus confiante en elle-même et qui va dire que oui, c'est possible de faire dans ce secteur qui, dans le passé, était réservé uniquement aux garçons.
Est-ce que vous, en tant que femme, est-ce que vous avez pensé un jour vous serez président?
Non, ce n'était pas dans mes ambitions, si je peux utiliser ce mot ambition. Je me suis retrouvée dans ce poste, comme je dis, en 2014, quand ils ont commencé à chercher, disons, une personne ou bien un nom qui n'était pas forcément du sérail politique. Et là, ils ont trouvé que peut-être là, j'avais les atouts qu'il faut, étant femme, et aussi, il faut dire, de surcroît musulmane, et aussi relativement jeune, apolitique. Donc, toutes les qualités étaient réunies. Et ben voilà.
C'était la présidente mauricienne Amina Gourib Fakim qui a été élue le 4 juin 2015 à l'unanimité par l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se fait là-bas. Une autre femme a exercé la présidence de Maurice, mais en intérim, Monique Hossan Belpo, qui en réalité, en qualité de vice-présidente, avait assuré la présidence pour de courtes périodes en 2002 et 2015. Ali Badara Cissé, on revient sur notre sujet. Vous parliez des femmes, justement, les femmes qui veulent entreprendre des petits business ou autres. Et en fait, il y en a beaucoup même qui font du business et qui sont pas du tout alphabétisées. Comment elles font, en fait? On se pose souvent la question parce que je pense que ça existe quand même, non?
Oui, ça existe.
Dans l'informel, hein, oui.
Ça existe dans l'informel, mais elles sont tout le temps butées à certains problèmes dans la mesure où quand on ne sait pas lire et écrire, quelle que soit l'initiative que vous entreprenez, vous serez bloqué quelque part par un problème de niveau. Mmh. Donc, c'est pourquoi ces femmes ont besoin pour leurs compétences, pour essayer vraiment de promouvoir leurs capacités. Elles ont quand même besoin d'être alphabétisées pour fructifier leur business.
Mmh. Est-ce que les formations pour ce type de personnes d'un certain âge, est-ce que c'est des programmes spéciaux ou ça rejoint quand même le programme scolaire quand on apprend à lire un tout petit, ou est-ce que c'est totalement différent?
Il n'y a pas une grande différence dans la mesure où on commence tout bas. C'est comme si on mettait à l'école un enfant de la première année, le CP1. Donc, il faut commencer par le syllabaire.
Vous-même, vous êtes enseignant?
Voilà.
Ah, je le savais, oui.
Justement, donc il faut commencer par le plus bas niveau, donc qui représente les cours primaires ici, afin que ces femmes puissent s'habituer. Parce que avant de courir, il faut d'abord apprendre à marcher. Et puis, c'est quand même un programme un peu spécial, juste pour les permettre de lire, écrire et aussi savoir compter. Parce que ça y va aussi dans l'intérêt économique du pays, donc on a besoin.
Mais autrement dit, est-ce que vous êtes présent, par exemple, dans chaque petite commune où là, vous aurez une poignée de personnes qui vraiment auraient besoin et peuvent vous approcher?
Au niveau de chaque commune, par exemple, à travers les maires, il y a des centres d'alphabétisation qui sont là.
Donc au sein même des mairies?
Au sein même des mairies, voilà. Ouais. Donc il y a des formateurs aussi, des personnes spécialisées pour travailler avec ces femmes.
Et ça, c'est pratiquement bien installé ou c'est vraiment dans les communes? Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment le retrouver dans les toutes petites communes aussi? C'est là que le besoin est le plus
important, j'imagine.
Voilà,
tout à fait, surtout dans les zones rurales, mais c'est beaucoup plus accentué dans la capitale Conakry. Mais au niveau des autres communes, c'est-à-dire des zones rurales, ça se fait aussi. Parce que c'est d'ailleurs là où les femmes ont plus besoin de ces formations.
Si jeunesse pouvait.
Le chômage des jeunes s'amplifie au Sénégal. C'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, d'ailleurs. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les diplômés sont les plus touchés. Certains se lancent ainsi dans l'informel ou l'auto-emploi, une initiative souvent périlleuse à cause du manque de garanties qui rend quasiment impossible l'accès au financement bancaire, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Je suis dans le business depuis 2002. Des fois, je vends des lunettes, des fois, des sacs. J'ai pas de domaine précis. Je m'active dans tout ce qui peut me rapporter quelque chose.
Mortal, 31 ans, a très tôt abandonné l'école pour se lancer dans le commerce de marchandises diverses. Comme lui,
beaucoup de jeunes ont déserté les classes de manière précoce pour se lancer dans le secteur informel, avec toutes les difficultés que cela comporte.
Ça avance, mais pas comme on le voudrait vraiment. Nous n'avons pas les financements nécessaires, c'est pourquoi notre travail est difficile. Nous sommes dans l'obligation de sacrifier nos biens pour faire avancer notre business. Des fois, nous allons au village vendre une chèvre ou un mouton afin d'avoir les fonds nécessaires. Nous évitons de faire des prêts dans les banques car ça peut nous être fatal, vu que nous n'avons toujours pas des bénéfices qui nous permettent de rembourser.
Le manque de financement est le principal souci des jeunes qui s'activent dans le secteur informel. Amadou Ba dénonce un manque d'accompagnement des autorités.
Je suis ébahi quand j'entends parler de financement des jeunes. Je vois des publicités à la télé, j'entends des personnes dire qu'on aide les jeunes, qu'on offre des financements, mais au fond, je ne parviens toujours pas à voir une personne qui a eu accès à ces financements. C'est pourquoi ces financements me posent problème car j'en ai jamais bénéficié et aucun de mes connaissances n'en a bénéficié non plus. Attendre des financements de l'État, c'est se leurrer.
Pourtant, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a financé plus de 1500 projets pour un montant dépassant les 3 milliards de francs CFA. Ces financements ont déjà permis la création de 4700 emplois directs. À terme, ils devraient s'étendre à plusieurs milliers d'autres jeunes à travers le territoire national. Seydina Ababi, à Dakar, Okéwa.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Je voudrais vous faire réagir sur la question du chômage, là, le chômage des jeunes. Hein. C'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Hein. Les jeunes, ils demandent du travail maintenant parce qu'il faut bien vivre, hein, n'est-ce pas?
Oui, c'est une réalité dans les pays africains. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gouvernements africains sont en train de se battre pour l'autonomie.
Mais alors, excusez-moi, on a un paradoxe là parce que vous êtes là pour alphabétiser les gens et... Mmh. On nous dit effectivement, hein, c'est un plus, forcément, pour travailler au 21e siècle, c'est évident. Et en même temps, parce que c'est pas le seul reportage qu'on a passé, on a eu le Burundi, on a eu plein d'autres pays, où tous ces jeunes diplômés, qui sont donc très alphabétisés, très cultivés, n'est-ce pas, eh bien, ils ne trouvent pas de travail.
Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chômage est une réalité dans la plupart des pays africains. Mais est-ce qu'il faut aussi retenir, la formation est extrêmement importante? Parce que moi, comme j'aime le dire, quand on est compétent et compétitif sur le marché de l'emploi, on ne pourra jamais chômer. Et on ne peut pas aussi toujours s'attendre au gouvernement.
D'accord, on est d'accord avec ça. Mais le gouvernement a quand même une certaine responsabilité. Quand on élit quelqu'un, c'est le cas partout, aux États-Unis, en France, partout, la population, ce qu'elle regarde, c'est les chiffres du chômage. Donc oui, il y a la responsabilité du gouvernement quand
oui,
même.
Oui, c'est vrai. D'une part, il y a la responsabilité, mais aussi et surtout, on ne peut pas aussi s'asseoir et ne pas chercher. Et
mais,
comme je l'ai dit tout à l'heure...
Mais vous pensez vraiment que les jeunes sont inactifs quand on voit tout ce qu'ils font pour se débrouiller, ce qu'on appelle la débrouille, tout ça vraiment?
C'est vrai que pas tous. Certains sont inactifs et d'autres aussi se battent. Moi, je vous dis par exemple, je prends l'exemple sur moi. Et ce n'est pas le gouvernement qui m'a aidé à trouver le travail. Quand j'étais étudiant, déjà en deuxième année, je me débrouillais pour donner des cours en tant qu'assistant. Et ensuite, à la fin, j'ai tout de suite trouvé du travail où j'étais simple professeur de français. Ensuite, j'ai fait un concours pour intégrer la fonction publique où mes parents n'étaient même pas au courant que j'avais passé ce concours. Donc, c'est vrai que le gouvernement met en place des procédures, mais le gouvernement ne peut pas aussi tout faire à la place des jeunes. Donc, il faut que les jeunes soient conscients et qu'on puisse aussi prendre notre destin en main afin qu'on puisse vraiment sortir du marasme économique. Le gouvernement peut certes mettre en place des processus pour nous permettre vraiment de trouver de l'emploi. Mais lorsqu'on n'est pas aussi compétent, lorsqu'on a...
Le gouvernement peut aussi demander des comptes aux entreprises.
Tout à fait.
Aux entreprises
tout
publiques et privées.
Et privées.
C'est à eux aussi de créer des emplois.
Voilà.
Chaque personne n'est pas à même de créer son propre emploi.
Tout à fait. Tout
parce
à fait.
Que et sinon, puis, ça
moi,
serait.
Moi, je me dis, c'est aussi un problème d'organisation. Parce que c'est vrai que si vous prenez l'Europe, vous prenez les États-Unis, il y a des structures qui sont en place qui permettent permettent ici et de trouver, de créer de l'emploi. Donc lorsque les emplois aussi sont créés, forcément, il y aura peu de chômage. Mais il faut aller aussi vers les entreprises et puis créer aussi des pôles comme le pôle emploi, par exemple, en France, pour que les jeunes puissent trouver des repères pour chercher de l'emploi.
Entre parenthèses.
En Guinée, 8 ans après la répression d'une manifestation de l'opposition dans laquelle plus de 150 personnes avaient été tuées et des dizaines de femmes violées en public. Les victimes demandent l'ouverture d'un procès. Voici un extrait du reportage de Zakaria Camara qui a assisté à une journée de commémoration marquant les violences du 28 septembre 2009 à Conakry.
C'était en Guinée.
Triste anniversaire et surtout une reconstitution des faits difficile à regarder. Une scène des viols replonge les victimes dans la douleur, certaines inconsolables. 8 ans après les massacres, l'attente semble longue pour les victimes.
Moi j'étais victime, j'étais dans le stade, tout ce qui s'est passé, je ne peux pas tout citer ici, mais franchement, ça m'empêche de dormir. 8 ans de retard, 8 ans de s'endormir, 8 ans partout, on ne peut pas circuler comme on veut. On veut la liberté, on veut la justice, tout ce qu'on demande.
L'association des victimes, parents et amis s'indigne et menace de battre le pavé, mais pas seulement, si elle n'obtient pas de la justice guinéenne la date du procès. Asmaou Diallo, présidente.
L'ONG Avipa serait dans l'obligation de saisir la Cour de justice de la CEDEAO afin que celle-ci interpelle l'État guinéen à faire réparation vis-à-vis des victimes du 28 septembre 2009.
La justice guinéenne a promis de boucler le travail du pool des juges avant le 31 octobre. Elle avait annoncé fin septembre pour la fin de l'instruction. Précision de Malal Diallo de l'OGDH.
La commission rogatoire internationale avait été envoyée en France pour entendre M. Sékouba Konaté, qui était à l'époque des faits, ministre de la Défense, deuxième vice-président CNDD. Et de surcroît, le monsieur qui, par un jeu médiatique, avait déclaré publiquement qu'il a déposé une liste de complices au niveau de la Cour pénale internationale.
La Fédération internationale des droits de l'homme a exprimé sa solidarité avec les victimes guinéennes. Elle appelle à plus de sérénité. Paul Sapou, secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des droits de l'homme.
S'il vous plaît, commençons par nous serrer davantage les coudes et éviter que nous puissions poser des actes qui pourraient nourrir d'autres actes qui relèvent de manœuvres dilatoires.
Voilà, c'était un extrait du reportage de Zakaria Camara. Vous pouvez suivre la version intégrale sur voafrique.com. Ali Badara Cissé, juste un mot avant qu'on se quitte sur cette question, le 28 septembre 2009.
Bon, c'est une grande histoire, mais je demande aux gens d'être patients. Il y a déjà, comme ils l'ont dit, le pôle d'instruction des juges qui est en train de travailler là-dessus. Vous savez, les procédures prennent beaucoup de temps, mais je pense que les auteurs de ces actes ignobles seront punis.
Merci beaucoup, Ali Badara Cissé. À très bientôt, au revoir.
Ce fut un plaisir et je suis très heureux de passer ici dans vos locaux.
Merci, au revoir. Arrête.